Bien, bonsoir et bienvenue à tous. Moi, c'est un plaisir particulier pour moi ce soir de présenter Gilles Thiberguin, qui est quelqu'un dont je connais et admire le travail depuis longtemps et qui en plus est un ami, je le dis. Donc, bienvenue à lui. Gilles est philosophe, il est maître de conférences en esthétique à l'Université Paris 1. Il enseigne également à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Il a même quelques liens d'ailleurs avec la maison où nous nous trouvons, puisqu'il est depuis de longues années membre du comité de rédaction des cahiers du Musée national d'art moderne. C'est un, entre autres choses, c'est un philosophe, c'est un spécialiste du paysage. Son premier livre qui a fait date, Landart en 93 chez Carré, qui doit être réédité, je pense, hein, prochainement, dans une refonte réactualisée, il le montrait, mais aussi d'autres ouvrages comme Nature, Art, Paysage, en 2001 chez Actes Sud. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, a écrit sur bien d'autres sujets, la poésie, un livre sur Emmanuel Occart en 2006 chez Segers, et puis, bien entendu, la philosophie, plusieurs titres, dont le plus récent, s'intitule Court-circuit aux éditions du Félin en 2008. Voilà. Puis je voudrais signaler aussi le très joli livre qu'il a fait qui s'appelle Finisterrae, Imagination et imaginaire de la cartographie, dans une très bonne collection des éditions Bayard. Alors malgré tout ça, ça ne l'empêche pas d'être aussi un amateur du hard-boiled, comme disent les Américains, c'est-à-dire du genre des durs à cuire, du polar, du roman policier, et c'est sous cet angle-là qu'il va nous apparaître ce soir, puisqu'il va être question dans sa conférence de Dashiell Hammett, sur qui nous verrons juste après un film. Voilà, je lui laisse sans plus tarder la parole.
Merci Jean-Pierre. Son regard fut attiré par le Sutter Hotel, qui déversait sur le trottoir la vive lumière de son hall lourdement décoré. Il avait mis l'hôtel dans son roman sur Sam Spade et le faucon, dont le manuscrit était encore à l'état de brouillon dans un de ses tiroirs. À 100 mètres de là, au coin de Montgomery, il y avait l'immeuble Hunter Dolin, où il avait situé le bureau de Spade. Que diable faisait-il à jouer au détective? S'il ne pouvait faire l'amour à Goody, il pouvait au moins écrire. Ses longues séances de nuit avec sa machine à écrire lui manquaient. Des heures passées dans le San Francisco de la fiction, aux rues pleines de brouillard et de héros victorieux et coriaces, où il pouvait maîtriser l'écoulement du sang et manipuler les hommes. Il avait la malédiction des Dane à réviser, maintenant qu'il avait trouvé comment arranger le bouquin, et avec le faucon maltais, il avait une chance de réaliser quelque chose qui n'avait encore jamais été fait. Cette page de Joe Gurrus, extraite de son roman Hammett, à l'origine du film de Wim Wenders, caractérise bien la façon dont l'écrivain est ici difficilement séparable de l'homme Samuel Dashiell Hammett. Son seul nom d'ailleurs est ambigu puisque Dashiell, ou Dash pour les intimes, n'était pas un prénom mais un nom de famille qui, d'origine française, c'est deux Schill en fait, lui venait du côté de sa mère. La carrière de l'écrivain fut courte, 12 ans, de 1922 à 1934, si on remonte à ses premières tentatives d'écriture, des nouvelles pour la plupart parues dans la revue Black Mask, une de ses publications bon marché de l'époque, imprimées sur un papier de mauvaise qualité à forte teneur en pulpe de bois, d'où le nom de Pulp Magazine donné à ce genre, et revue qui était consacrée à la littérature policière. En 1927, il publie deux longues nouvelles, Le Grand Braquage et sa suite Le Prix du Sang, qui forment à elles deux ce que l'on peut considérer comme un véritable roman. Mais c'est en 1929 que paraît La Moisson Rouge en fait Red Harvest, qu'on a traduit La Moisson Rouge, mais qui était retraduit par Moisson Rouge, plus conforme au titre original, livre qui avait été auparavant publié en feuilleton et ensuite révisé. Une technique que reprendra Hammett pour ses autres romans, en tenant compte de moins en moins, il est vrai, des remarques de son éditeur Alfred Knopf, qui lui demandait de revoir telle ou telle partie. Suit alors une période d'intense activité littéraire, puisque, comme l'évoque Joe Gurrus, dans le passage que j'ai lu pour commencer, au moment où paraît Moisson Rouge en volume, Hammett révise Sans Maudit, en fait The Dane Curse, la malédiction des Danes, mais traduit en français ainsi, et il travaille sur le faucon maltais. Sans maudit est publié à la fin de l'année 1929, Le Faucon Maltais en 1930 et La Clé de Verre en 1931. Trois ans plus tard, en 1934, paraît L'Introuvable, son dernier roman. Cette même année, Hamet, qui aura 40 ans au mois de mai, publiera sa dernière nouvelle avant d'entrer dans un silence qui durera jusqu'à sa mort, 27 ans plus tard, en 1961. Durant cette période, il boira énormément, travaillera sur les pièces de théâtre de sa compagne Liliane Hellman, supervisera des scénarios de films tirés de ses livres, en écrira quelques autres pour Hollywood, où il gagnera des sommes colossales. Il militera au Parti communiste et finira ruiné après la guerre, poursuivi par les impôts auxquels il devait d'énormes arriérés. Surtout, il sera privé de tout revenu dès le début des années 50, victime des menées du sénateur McCarthy, qu'il enverra 6 mois en prison en 1951, l'année même de l'exécution des Rosenberg. Administrateur d'un organisme d'obédience communiste qui venait en aide aux intellectuels et artistes inquiétés par la commission McCarthy, il avait en effet refusé de livrer les noms des donateurs de ce fonds dont bénéficiaient alors certains dirigeants communistes pour faire appel de leur inculpation. La loi Smith permettait alors d'emprisonner toute personne susceptible de commettre des actes de sabotage ou d'espionnage. Comme ces dirigeants ne s'étaient pas présentés au terme du délai obtenu, on avait convoqué Hamet et les autres responsables du fonds. On a l'habitude de découper sa vie en tranches, les débuts, l'enfance, l'adolescence, le moment où Brancardier, pendant la guerre de 14-18, y contracte une grave tuberculose jusqu'à son engagement comme détective à l'agence Pinkerton. Ensuite vient la période d'écriture, suivie de celle consacrée à Hollywood, qui se clôt par son engagement dans l'armée à 48 ans, durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis enfin, l'époque du McCarthyisme et les dernières années. Mais tout cela est imbriqué et lié chez Hamet et rend encore plus sensible cette cohérence que présente finalement toujours, si peu que ce soit, la vie d'un homme à laquelle l'œuvre est indissociablement liée, sans que l'on dispose pour autant de plus de clés pour expliquer l'une par l'autre. Quand Manchette dit que le polar est la grande littérature morale de notre temps, il n'a pas tort. Hamet était lui-même un homme mu par une véritable éthique, qui expliquera ses engagements politiques. Lorsqu'il alla en prison, il confia à Liliane Hellman qu'il ne connaissait même pas le nom de ceux qu'on lui demandait de donner, n'étant jamais entré dans le bureau du comité. Mais par principe, il s'en tint à la ligne de défense qui aboutit à sa condamnation. Ce sens de la parole donnée, on le retrouve chez ses personnages. Et c'est ce qui se donne à ses romans une qualité particulière, qui consiste à stigmatiser un monde corrompu, où les flics et les truands ont partie liée, mais où le détective, doué d'un sens supérieur, incarne une certaine forme d'intégrité. Cette intégrité ne va pas sans un solide bon sens et un pragmatisme de bon aloi. Ainsi, dans Moisson Rouge, Hamet fait dire au Continental Hop, qui parle à certains enquêteurs de l'agence qu'il a fait venir à la rescousse, « C'est très bien pour l'agence d'avoir des règles et d'appliquer des procédures, mais quand tu es en mission sur le terrain, tu dois faire au mieux avec les moyens du bord. Celui qui débarque à Poisonville, avec des principes moraux, risque de les voir rouiller très vite. » Mais les principes dont il parle appartiennent à une morale préfabriquée, en quelque sorte, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'éthique du détective. C'est-à-dire un ensemble de règles de conduite qu'il se donne à lui-même et qui ne sont pas toujours conformes au code de l'establishment, ni même de ceux de son propre employeur. Hamet a ainsi tiré parti de son expérience dans la plus grande agence de détectives de l'époque, la Pinkerton, pour raconter ses histoires qui mettent d'abord en scène un détective anonyme, le Continental Hop, Hop pour Operator, ce qui veut dire un détective qui appartient en l'occurrence à la Continental Detective Agency, imaginé sur le modèle de la Pinkerton. En activité d'ailleurs dans un certain nombre de ses premières nouvelles, on retrouve Lop dans Moisson Rouge et dans Sang Maudit. Puis vient Sam Spade, l'archétype du dur à cuire, qui reprendra du service dans 3 nouvelles avant de disparaître tout à fait. Cette figure du détective, Hamet l'abandonnera dans La Clé de Verre, qu'il considérait comme son meilleur livre. Là, Ned Beaumont, le héros, est une sorte de dandy, confident et ami d'un homme politique qui n'a rien d'un privé, mais qui va être poussé malgré lui à enquêter sur un crime qui pourrait impliquer directement cet ami. Si Hamet renoue avec la figure du détective dans son dernier livre, c'est presque à contre-cœur. Tout comme son héros, Nick Charles, détective retiré des affaires après avoir épousé Nora, dont le père vient de mourir, et qui lui a laissé une somme d'argent suffisante pour vivre sans travailler. Nick pourtant est contraint bien malgré lui de se livrer à une enquête sur un personnage de sa connaissance. Et en même temps, on le voit dans le roman formant avec sa femme un couple aux mœurs très libres et qui mène une vie mondaine débridée, buvant plus que de raison, comme Hamet à la même époque avec Liliane Hellman. The Thin Man, L'introuvable, donc, puisqu'on l'a traduit ainsi, est comme un miroir de l'écrivain à ce moment-là. Les jaquettes de l'époque où l'on voit reproduite sa célèbre photographie avec canne et chapeau feutre ont d'ailleurs contribué à renforcer cette analogie. Ce qui fait aussi la singularité de Hamet, c'est qu'il a inventé un genre. Il manifestait certes une conscience de son art lorsqu'il écrivait à la femme de son éditeur qu'il était une des rares personnes, s'il en restait encore, à prendre au sérieux le roman policier. Mais en disant cela, il ne pouvait savoir qu'il le renouvelait en fait entièrement, créant et fixant ainsi le fameux style hard-boiled qu'a évoqué tout à l'heure Jean-Pierre, auquel s'était essayé quelques mois avant Carol John Daly, qui a cette antériorité, mais juste parce qu'à quelques mois, il a en effet fixé, enfin créé, disons, quelque chose que Hamet va lui véritablement fixer. Le style hard-boiled qui sera la marque de ce qu'on appellera en France le polar, pour le distinguer du roman à énigme. Polar, écrivait Jean-Patrick Manchette dans une de ses chroniques publiées dans Charlie Hebdo, ne signifie aucunement roman policier. Polar signifie roman noir violent. Tandis que le roman policier à énigme de l'école anglaise voit le mal dans la nature humaine mauvaise, le polar voit le mal dans l'organisation sociale transitoire. En effet, le roman policier classique suppose une société fermée, dont les membres ont intériorisé les valeurs auxquelles ils obéissent comme à leur propre conscience, et sont unis par des liens tellement étroits qu'ils sont tous, Oden, le poète qui a écrit un très beau texte sur le polar, a raison de le dire, qu'ils sont tous donc des suspects potentiels. Dans cette société, un événement, le crime, a perturbé l'ordre des choses qu'un individu, le détective, doit rétablir en remontant d'indice en indice et à l'aide d'un raisonnement rigoureux jusqu'au criminel dont il prouve la culpabilité en même temps qu'il en découvre le ou les mobiles. À la fin du roman, les puissances du bien toujours supérieures finissent par l'emporter. La loi le permet, la morale collective l'exige, le détective le garantit. Ce point de vue n'est plus celui du polar. La société qu'il décrit est en pleine décomposition. Ce n'est plus l'univers cosy et douillet du cottage où les dames de la bonne société trempent une tranche de cake dans leur thé à 5 heures, tandis que les messieurs devisent au fumoir ou dans la salle de billard et que le criminel officie dans une des pièces de la maison, de préférence la bibliothèque où le mal brusquement va faire éruption. Dans le monde du polar, dont l'âge d'or se situe entre les années 20 et les années 40, on vit dans un monde brutal et désorganisé, où chacun cherche à tirer la couverture à soi en jouant plus malin. Les tripots ont remplacé les bibliothèques et l'on boit plus volontiers du whisky que du thé. En effet, comme l'exprime vigoureusement Raymond Chandler dans The Simple Art of Murder, qui est un très beau texte aussi qu'il a écrit sur le polar, mais plus particulièrement sur Dashiell Hammett. Dans ce texte, Chandler écrit « Le roman policier réaliste décrit un monde où les truands peuvent régner sur des pays et règnent presque sur de grandes villes, où hôtels, immeubles et restaurants en vogue appartiennent à des hommes qui ont fait fortune avec des bordels. Un monde où, après avoir assisté à un hold-up, en plein jour, on s'empresse de disparaître dans la foule plutôt que de témoigner, parce que les truands qui l'ont commis ont peut-être des amis armés de gros flingues, ou parce que votre témoignage ne plairait peut-être pas à la police, et parce que, de toute façon, l'avocat véreux de la défense aurait toute l'attitude de vous bousculer, de vous déchirer à belles dents au tribunal, devant un jury de crétins soigneusement choisis, sans qu'un juge politicard n'intervienne, autrement que pour la forme. » Si la justice finit par triompher, ce n'est pas en tout cas grâce aux institutions censées protéger les citoyens. Ou si par hasard c'est le cas, ce n'est pas parce qu'un souci de justice anime ces institutions, mais parce que, comme l'écrit Orwell, comparant Pat d'Orguier pour Miss Blandish de Chase à Raffles de Hornung, la loi est un plus grand racket que le crime. Dans ce monde-là, le crime, loin d'être le fait d'individus isolés, est tout entier lié à l'organisation même de la société. On peut dire qu'il est cette organisation. Reste quelques individus qui, n'étant pas coupables, sont le plus souvent victimes. Reste aussi le privé, le détective solitaire qui sait d'un surinstinct de quel côté chercher la vérité et qui travaille pour la justice, quitte à poursuivre seule l'enquête quand son commanditaire craint d'aller plus loin, s'il ne l'a pas engagé tout simplement pour le mettre sur une fausse piste. Ce n'est plus le crime désormais omniprésent qui compte, mais la façon dont le privé va s'y prendre pour découvrir le criminel et réunir les preuves contre lui. Ainsi de Sam Spade, qui est doué d'un sens aigu pour démêler le vrai du faux, et dont le nom, suivant Nathalie Benat, la traductrice avec Pierre Bondil, des romans de Hamet, paru l'an dernier en un volume chez Gallimard, qui a repris toutes donc les traductions, enfin qui a refait toutes les traductions des romans de Hamet, dont donc Nathalie Benat suppose que le nom pourrait très bien être inspiré du proverbe anglais « to call a spade », qui signifie « appeler un chat ». Spade a le sens du détail. C'est sans doute normal pour un enquêteur professionnel, mais ça l'est moins quand il s'agit de corriger sa secrétaire pour une faute stylistique. Je cite « Et Miss O'Shaughnessy » demanda-t-elle. « Elle aussi, je l'ai ratée », répondit-il, « mais elle y allait. » « Sur le La Paloma ?»« Le La à la suite ?» ça sonne mal. « Arrêtez, Sam, soyez gentil, racontez-moi. » C'est aussi d'un effet assez étrange lorsque lui-même précise sa pensée syntaxiquement. « Je voudrais vous montrer quelque chose, dis-je au vieux chinois, lorsque je me trouvais derrière lui, ou plutôt devant la table derrière laquelle il s'était assis. » En fait, cette précision est un réflexe de correction face à l'usage approximatif du langage qui fait du malentendu dans notre société la meilleure façon de se faire comprendre et donc d'agir à sa guise sans plus aucun souci de la parole donnée, dans la mesure où son énoncé même est ambigu. Ainsi, dans ses souvenirs d'un détective privé, écrit en 1923, Hamet avait-il noté « Une fois, le responsable d'une agence de détectives de San Francisco a corrigé un de mes rapports en remplaçant « voracité » par « vérité », sous prétexte que le client risquait de ne pas comprendre le premier mot. Quelques jours plus tard, dans un autre rapport, simulé est devenu « excité » pour la même raison. On ne peut pas oublier que Sam, le prénom de Spade, est aussi celui de Hamet, et l'on voit ici se dessiner la figure de l'écrivain en enquêteur, du poète en privé, figure à laquelle Emmanuel Occar, se référant, il est vrai, plus à Chandler qu'à Hamet, donnera la figure la plus accomplie. Hamet avait d'ailleurs eu la tentation d'écrire de la poésie, et, comme Chandler, en publia un peu à ses débuts. Il en reste quelque chose dans le personnage de deux nouvelles publiées en 26, Robinson, qui est poète et fils de détective. Le deuxième roman de Hamet, Sans maudit, donc La malédiction des Daines, si on prend le titre anglais, ce deuxième roman, le plus alambiqué que son auteur ait écrit et que l'on a pu comparer à un roman gothique, met en scène un écrivain enquêteur, Fitzstefan, qui prête ses services à son ami, le Continental Hope, alors qu'il est lui-même le criminel recherché. Vers le début du roman, il s'adresse ainsi à Hope. Est-ce que toi qui gagnes ta vie en fouinant, tu raillerais ma curiosité au sujet des gens et mes tentatives pour la satisfaire ? Nous sommes différents, répondis-je. Je le fais dans le but de les mettre en prison, et on me paye pour ça, même si ce n'est pas autant que je le souhaiterais. Ça n'a rien de différent. Moi, je le fais dans le but de les mettre dans un livre, et on me paye pour ça, même si ce n'est pas autant que je le souhaiterais. Cette précision linguistique est un des grands atouts et aussi une grande nouveauté apportée par Hamet. Il est saisissant de voir avec quel soin il se livre pour chaque personnage, même le moins important, à une description à la fois très exacte et très suggestive. Parfois, il donne des indications permettant de varier un point de vue sur quelqu'un. Par exemple, c'était une blonde sous-dimensionnée de 19 à 21 ans, selon que l'on considérait ses yeux ou le reste de son visage. Ou alors, il va réduire le personnage à quelques taches de couleur, comme ferait un peintre. Ainsi, dans Le Grand Braquage, à propos d'une femme qui accapare l'attention d'un personnage. Elle n'était ni grande, ni petite, ni mince, ni ronde. Elle portait une sorte de tunique russe, noire, bordée de vert, et surchargée de trucs en argent. Un manteau de fourrure noire était étalé sur le dossier de la chaise derrière elle. Elle devait avoir 20 ans. Ses yeux étaient bleus, sa bouche rouge, ses dents blanches. L'extrémité de ses cheveux qui dépassait de son turban noir, vert et argent, était châtain, et elle avait un nez. Sans trop se monter le bourrichon sur le détail, disons qu'elle était jolie. Le plus souvent, comme un caricaturiste, il croque en quelques traits le caractère d'un individu. Dernier exemple, Mickey Linnan était un gros gaillard mou aux épaules tombantes, dont le corps informe semblait se déboîter à chaque articulation. Ses oreilles décollées suggéraient deux ailes rouges et son visage rond, rouge lui aussi, affichait généralement le sourire bête du simple d'esprit. Il avait l'air d'un pitre, ce qui était le cas. C'est là le fameux style behavioriste qui fera la marque du polar américain. Pas de psychologie des profondeurs, seulement une description extérieure des individus dont le caractère nous apparaît peu à peu à travers leur comportement, leur façon de manger, de s'habiller, etc. Ce dernier point est d'ailleurs très important dans les romans de Hamet. Dans une des rares lettres datée du 20 mars 1938 où il parle de son travail, Hamet écrit à Blanche Knopf, la femme de son éditeur qu'il voudrait appliquer, à la femme de son éditeur, pardon, il lui écrit qu'il voudrait appliquer au roman le style du monologue intérieur. On découvrirait les indices en même temps que le détective. Je ne sais pas si c'est clair, ajoute-t-il, mais ce serait radicalement différent de la technique narrative employée dans Poisonneville. Poisonneville, c'est en fait le titre qu'il imagine pour Le Moisson Rouge. Ce serait donc radicalement différent de la technique narrative employée pour Poisonneville, par exemple, car bien que le lecteur y chemine avec le détective, il pénètre rarement plus avant la pensée du détective que ne lui permet de les dialogues et l'action. Le 8 avril, il revient à la charge. Si toutefois, comme il semblerait que ce soit le cas, mes contacts avec la Fox se confirmaient, je laisserai de côté pour l'instant mon idée de travailler le style du monologue intérieur et m'en tiendrai à la technique narrative objective, plus cinématographique. C'est ce qu'il fera, et de façon définitive. Manchette avait déjà noté l'efficacité d'un tel style en citant, exemple, le début de Moisson Rouge, où la description des policiers en faction dans la rue nous renseigne tout de suite sur l'état de délabrement moral où se trouve la ville. Je cite, « Le premier policier que je vis avait une barbe de 3 jours. Le deuxième portait un uniforme défraîchi auquel manquaient 2 boutons. Le troisième, planté au milieu du carrefour principal, à l'intersection de Broadway et de Union Street, réglait la circulation, cigare au bec. Je cessai ensuite de les passer en revue. » Le soin qu'apporte là encore Hamet à la description des façons de s'habiller de ses personnages est très significatif. S'habiller, évidemment, ce n'est pas seulement séduire, c'est aussi répondre à des codes sociaux qui inscrivent tout de suite les individus dans l'échelle des valeurs sociales. Ainsi, Ned Beaumont, dans La Clé de Verre, dit-il à son ami politicien qui doit dîner chez un riche sénateur dont il convoite la fille, « Je te conseille de faire bien gaffe à tes fringues quand tu leur rends visite. Sinon, tu risques de te retrouver comme un ver parce qu'aux yeux de ces gens-là, tu incarnes une race inférieure de l'espèce animale à l'égard de laquelle aucune règle ne s'applique. » En revanche, si l'on connaît les codes en matière vestimentaire, tout est alors permis, car cela veut dire que l'on en est. Et Ned Beaumont, le détective dandy, circule entre tous les milieux parce qu'il connaît ce genre de code. C'est ainsi qu'à un autre moment du roman, il déclare à ce même ami, je le cite, « Tu ne devrais pas porter des chaussettes en fil de soie avec du tweed. » Et Madvig, l'ami en question, de répondre, « Tu crois ? J'aime le contact avec la soie. Dans ce cas, laisse tomber le costume en tweed. » On retrouve une réplique presque identique chez Godard dans Un bout de souffle, probablement un clin d'œil au maître américain. Mais Hamet inaugure aussi un style que Chandler cultivera ensuite de façon plus systématique, avec un sens certain de la métaphore outrée, comme dans Le Grand Braquage. La chambre était aussi sombre que les perspectives d'avenir d'un politicien honnête. Ou de l'hyperbole, comme lorsque dans Sang maudit, Hamet décrit un petit malfrat qui récupère son argent. Il posa le cigare sur le bord de la table, ramassa l'argent, humecta un pouce gros comme le talon sur une langue semblable à un tapis de bain et compta sa liasse en reposant les billets l'un après l'autre. Ou encore, dans « Au fer à cheval d'or », qui est une nouvelle des années 20, il était tard quand il arriva, et l'odeur de mescal qu'il dégageait était telle que son haleine aurait pu faire le trajet San Diego-Saint-Louis et retour, et tuer une mouche au bout, mais sa tête paraissait en équilibre. Enfin, on pourrait multiplier les exemples à l'envi. Dans « Crime en jaune », un dernier de ces exemples, une autre nouvelle qui met en scène le Continental Hop. Il dit « Je vais faire un tour dans Chinatown maintenant. Si vous n'entendez pas parler de moi pendant quelques jours, soyez assez aimable de dire au cantonnier qu'il fasse attention à ce qu'il balaye dans les rues. Il me le promet. » On sait aussi que le vocabulaire introduit par Hamet dans ses romans appartient à l'américain populaire, mais aussi à la langue des malfrats ou encore à l'argot des taulards qu'il avait appris quand il était détective. On trouve aussi chez lui des mots qui aujourd'hui ne nous disent plus grand-chose. Certains, par exemple, qui sont liés à la prohibition qui dura 14 ans, exactement à l'époque où Hamet écrivait ses polars. Abondent les termes qui désignent les bars interdits, le speakeasy étant le plus connu, ou ceux qui désignent l'alcool, booze bien sûr, mais aussi bootleg, bottle, moonshine, hardware. Même variété pour désigner les consommateurs excessifs de gnôle, plastered, smoked, deuced, polluted, parmi d'autres qu'a pu relever sa traductrice Nathalie Benoît. Mais c'est aussi une façon d'imposer l'américain contre l'anglais et de s'émanciper de sa tutelle. Certains critiques ont noté à juste titre que la langue anglaise est marginalisée chez Hamet par rapport à l'américain pragmatique du héros. On la retrouve ainsi dans la bouche d'Européens maniérés ou d'escrocs qui jouent aux esthètes. On pense évidemment à Casper Gutman dans Le Faucon Maltais, joué par Sidney Greenstreet dans le film de Houston. Sa manière affectée de s'exprimer est truffée d'expressions britanniques qui contrastent avec le parler rugueux de Spade. Benoît Tadier, qui est l'auteur d'une intéressante étude sur le polar américain, remarque que, je le cite, « des personnages comme Gutmann renouent avec la tradition des récits de la frontière et de ces charlatans qui, comme le roi et le duc, dans Huckleberry Finn de Twain, usurpent l'autorité de l'anglais britannique pour mieux rouler leurs victimes crédules. » Il y a bien sûr aussi le rythme de la phrase, la scansion sèche et directe, capable de restituer l'action au moment où elle se passe dans son mouvement même. Dans un article de 1939 intitulé « Le tempo dans le roman contemporain », Hammett écrit « Le travail du romancier contemporain consiste à prendre des bouts de vie et à les arranger sur le papier, et plus direct sera leur passage de la rue au papier, plus ils sembleront vivants. Le roman contemporain, me semble-t-il, a besoin de tempo, non pour entasser un maximum de choses dans chaque page, mais pour donner l'impression que ce qui est écrit est vraiment contemporain, que les choses arrivent ici et maintenant, pour obliger le lecteur à un sentiment d'immédiateté. » Mais au-delà du genre que contribue à créer Hammett, il y a dans ses livres un sens de l'observation aiguë dont j'ai déjà parlé, mais qui traduit aussi une curiosité pour le monde et un souci de le comprendre qui lui donne une dimension poétique et philosophique, certaine à mes yeux. Je me souviens de Georges Blin qui, dans un cours au Collège de France, décrivait le poète comme l'homme qui se tient entre les choses, racontant comment, dans une salle des ventes où il s'était rendu avec André Breton, il avait été surpris que celui-ci porte les enchères pour un œuf d'autruche fossilisé, alors qu'il avait longuement tourné autour d'un petit tableau primitif, vite abandonné ensuite quand les prix avaient commencé à monter. Et comme Blin s'en étonnait, Breton lui avait répondu « Le primitif était un faux, pas l'œuf. » Cet exemple ne suffit pas à m'expliquer exactement ce que « se tenir entre les choses » pouvait signifier pour Blin, mais il m'en donne une idée, et je crois que Hammett était aussi ce genre d'homme qui s'efforçait, en observant et en décrivant les rapports entre les êtres, d'en élucider l'énigme. Liliane Hellmann, dont le témoignage peut être sujet à caution quand il s'agit de ses liens avec Hammett, mais que j'ai tendance à croire quand elle décrit l'homme qu'il était, sans s'impliquer directement elle-même, raconte que dans les 10 dernières années de sa vie, je la cite, « la lecture au petit bonheur, le choix de n'importe quel livre, contribuait à enrichir un esprit remarquable, lucide, précis, respectueux des faits. Il conçut une aversion aussi solide que durable pour un homme qui affirmait avec insistance que le maquereau était apparenté au hareng. Et, un jour, il quitta mon salon pendant qu'un écrivain célèbre parlait sans en savoir grand-chose de l'existentialisme. Il refusa de descendre dîner avec cet écrivain, car, disait-il, cet homme est la plus grande perte de temps depuis l'invention du mahjong. Les menteurs sont des raseurs. Un voisin sonna un jour pour lui demander comment on pouvait arrêter une fuite dans une piscine, et il le savait. Le fils de mon fermier lui demanda comment faire un piège pour attraper les tortues d'eau, et il le savait. Né au Maryland, d'origine catholique, mais ayant depuis longtemps rompu avec l'église, il en savait plus long que moi sur le judaïsme, et plus sur la musique, la cuisine et l'architecture de la Nouvelle-Orléans que mon père qui avait grandi là-bas. Mais il y a aussi chez Hammett quelque chose qui court à travers ses récits, qui est d'un ordre que je pourrais dire philosophique, une façon de rendre compte du réel pour lui donner sens en travaillant sur la langue dont il se sert pour y parvenir. Un côté Wittgenstein s'y retient l'une de ses définitions de la philosophie comme une clarification logique de la pensée. Or c'est là une activité qui n'est rien moins qu'évidente et à laquelle nous avons tendance le plus souvent à renoncer. Ainsi dans Sang maudit, Hammett fait-il dire à l'un de ses personnages « Personne ne pense clairement, même les gens qui prétendent le contraire. Penser est un truc à vous flanquer le vertige. Il s'agit de saisir le plus grand nombre possible d'éléments évanescents et de les organiser au mieux. C'est pour cela que les gens s'accrochent avec autant d'énergie à leurs croyances et à leurs opinions. Parce que par comparaison avec le cheminement chaotique qui permet d'y arriver, les opinions les plus folles paraissent merveilleusement claires, réfléchies et évidentes. Et si on les laisse s'échapper, on doit replonger dans ce fouillis brumeux pour les remplacer en s'en fabriquant péniblement d'autres. » Il est certain que l'écriture pour Hammett est une forme aiguë de réflexion, si fut-il qu'ait pu en paraître à première vue les enjeux. Et il est clair aussi qu'il finit par baisser la garde. Son dernier roman, pour brillant qu'il fût dans son écriture et la fulguration de ses dialogues, est une régression par rapport à ses autres livres et qui tire parfois la ligne. On sent la lassitude. Le polar n'intéresse plus Hammett qui cherche à passer à autre chose. Mais il n'y parviendra pas. Tulip, son dernier texte autobiographique inachevé et abandonné au début des années 50, s'interrompt sur cette phrase « Si l'on est fatigué, me semble-t-il, il faut se reposer et non pas tenter de s'éblouir soi-même et ceux qui vous entourent de bulles de savon irisé. » Hammett, qui était littérairement épuisé à cette époque, continua à observer le monde les 10 dernières années de sa vie, mais cessa de le décrire. Merci.